Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à toute une chacune et à tout un chacun, comme chaque deuxième mardi de chaque mois. À 18h30, c'est dans l'émission générique Chemin de Traverse, c'est « Et si on en parlait ?». Alors, si on en parlait, vous connaissez le principe, hein, un invité ou bien un sujet, et on parle un peu de ce qui se passe dans le monde, alors le monde lointain, le monde d'aujourd'hui, le monde d'hier, le monde de demain. Aujourd'hui, on va parler de notre monde, de la France, et je reçois donc pour en parler Michel Catelin, qui est responsable de l'Union locale CGT de Villefranche-sur-Saône. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Michel. Alors, nous allons parler de l'activité et de la rue et de tout ce qui se passe autour du problème de la retraite ou des retraites. Alors... Pour commencer, le 30 avril 1930, il y a une loi qui est passée et qui mettait en place un système mixte de retraite, hein, qui se basait un petit peu sur un système de répartition lié à ce que les gens touchaient et pouvaient cotiser, mais qui mettait aussi en place en parallèle un régime de capitalisation. Et donc voilà, il y avait ces deux régimes qui existaient côte à côte en 1930. C'est un petit peu ce dont on entend parler actuellement. Et puis, le 4 octobre 1945, il y a le Conseil national de la Résistance qui a mis en place un système de retraite basé donc sur ce que nous connaissons actuellement, à savoir on cotise, hein, les cotisations des actifs servent à payer immédiatement les retraites tout en leur ouvrant des droits pour leur future retraite. À l'époque, donc l'âge de la retraite sur ce système, il était prévu à 65 ans, on partait à la retraite à 65 ans, c'est des dates qui reviennent. Alors bien entendu, il y a eu des évolutions dans cette histoire de la retraite, des évolutions qui ont fait que l'âge est tombé à 60 ans. Et puis voilà, il y a eu des choses qui sont modifiées, des régimes qui ont été modifiés. Et puis on entend maintenant revenir sur l'âge à 65 ans, donc qui était celui du Conseil national de la Résistance. Et puis des régimes mixtes, hein, qui étaient les lois de 1930. Alors tout ça, c'est compliqué. Après, on nous parle de la clause du grand-père, on nous parle d'un régime à points. C'est quoi un régime à points? On nous parle, tout le monde aura la même retraite, on nous parle des régimes spéciaux. On nous parle, mais sur la table, on n'a rien. Alors, ça devrait arriver. On nous dit, on n'a rien, et puis on doit dire quand même qu'on n'y comprend un petit peu rien. Donc, je me suis tourné vers quelqu'un qui suit ce problème depuis des années. Et donc, je vais demander à Michel Catelin s'il peut un petit peu nous faire un point, nous expliquer tout ça.
Oui.
Ça ne va pas être simple.
Vous avez commencé par l'histoire des retraites. Dire que depuis Colbert, il y a des systèmes qui ont été mis en place. Ils ont tous coulé les uns après les autres. Et qu'effectivement, le Conseil national de la Résistance a institué notre régime de retraite dans toute la réforme sur la sécurité sociale. Ça fait partie...
Oui, ça faisait partie...
La philosophie, c'était que quand on vient au monde, donc on doit être garanti. Quand on travaille, on doit être garanti pour la santé, pour le droit de travailler. Puis quand on arrive à la retraite, on doit pouvoir profiter de la vie de la retraite. Donc c'était vraiment quelque chose qui était pensé très fort. C'était de l'humain avant tout, quoi.
Bien sûr.
Et effectivement, à cette époque... faut le dire, tout un tas de professions ont refusé de participer à la construction de la sécurité sociale. Hein. Et pour certains qu'on entend maintenant beaucoup critiquer ce qui se passe, je veux parler des agriculteurs, des commerçants, tout un tas, ils n'en voulaient pas de la sécurité sociale, même certains mutualistes, mais aujourd'hui, ils critiquent tous et ils voudraient bien y rentrer. Donc c'est assez particulier quand même notre histoire. Voilà, donc c'était effectivement un projet social du Conseil national de résistance, qui était avancé, qui était un exemple mondial. En partant de cette idée, c'est que les gens doivent pouvoir satisfaire leurs besoins. Et à partir de là, c'est de la création de richesses pour l'ensemble du pays. Donc voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, cette histoire des retraités. Et en 1981, quand la retraite à 60 ans a été mise en place, c'était effectivement tenir compte dans notre pays du développement économique réel auquel participait l'ensemble de la population. Et en même temps, c'était l'idée que arriver à 60 ans, on pouvait avancer l'âge, parce qu'en même temps, c'était offrir à la jeunesse qui arrivait, on était dans un baby-boom, la possibilité d'avoir du travail. Or, aujourd'hui...
Partager le travail.
Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a plus d'un million et quelques de personnes entre 55 et 65 ans qui sont sans boulot. Ils ne sont pas au travail, ils ne sont pas au chômage, il n'y a rien. Donc, on voit ça, on considère que c'est un gâchis, quoi, je veux dire, cette situation. Alors, repousser l'âge de la retraite systématiquement, c'est dire qu'il y aura plus de chômeurs. Parce qu'en même temps, il faut offrir les emplois en France.
Il faut qu'ils suivent.
Voilà la situation dans laquelle on est. La deuxième chose, c'est que toutes les statistiques le montrent, plus on avance dans l'âge de la retraite, plus on coûte cher en termes de santé. Parce qu'on arrive avec des salariés usés par le travail, et donc à partir de là, une multiplication des arrêts de travail qui se font, donc ça coûte. Ça coûte. Voilà. Alors, est-ce qu'il vaut mieux payer des gens pour être à la retraite plutôt que d'être au chômage ou d'être en arrêt maladie? Voilà la grande question qu'il y a aussi dans notre pays en ce moment.
Sachant qu'en plus, les jeunes, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver de l'emploi, les moins de 25 ans.
Ah oui, alors oui, donc même à Villefranche, on pourrait le voir, le chômage des jeunes continue d'être important. Mais... ensuite, les jeunes, maintenant, arrivent à être vraiment dans la vie active à temps plein à pas loin de 30 ans.
Voilà.
Donc, il y a quelques années, à 20 ans, on avait le boulot, on avait un logement. Voilà. Et maintenant, c'est à 30 ans qu'on arrive à peu près à avoir un travail stable. Donc, voilà, encore une fois, c'est un gâchis continuel de savoir-faire, de création de richesses dans notre pays. On est dans cette situation-là où rien n'est fait pour que l'ensemble des gens puissent contribuer encore plus à la création de richesses. Et quand il y a création de richesses, on discute après de répartition.
Voilà. Alors, à côté de ça, il y a des gens qui ne sont pas dans le système général et on entend beaucoup parler de ces fameux régimes spéciaux. Alors, les régimes spéciaux, c'est plein de choses. Ce sont les fonctionnaires, ce sont la SNCF, la RATP, les marins, EDF, GDF, les parlementaires, ne les oublions pas. Voilà, il ne faut quand même pas les oublier, etc. Et bon, il y a des trucs qui sont bizarres, les agents des personnels de l'Opéra National. Enfin, il y a toute une liste comme ça, qui cotisent à des caisses qui leur sont propres, pour certaines qui fonctionnent bien, même, où il y a même des excédents. Etc. Et on veut supprimer, le gouvernement propose donc de supprimer tout ça. Quel est l'intérêt? Ça représente quoi en réalité ces régimes spéciaux? Moi j'ai un chiffre qui dit que c'est que 3,4% de la population active.
Ouais.
Donc c'est pas la grosse verrue, quoi.
Non, mais je crois que c'est un petit peu le chiffon rouge qu'on agite comme ça pour pouvoir remettre en cause le système sur le fond, quoi, fondamental. Je veux dire, c'est un petit peu ça. Oui, moi, les régimes sociaux, j'en connais. J'ai participé, j'ai animé des débats, par exemple, avec les gens d'église aussi, qui demandaient qu'une chose, c'est d'être intégré à la sécurité sociale. Je leur ai fait des formations là-dessus. Mais bon,
les
régimes sociaux, ils ont toujours une réponse à quelque chose. Alors, bien sûr, tout ce qui est du côté des fonctionnaires, l'État se dit qu'il faut les supprimer parce que c'est lui qui les a en charge. Donc on les intègre dans un système général. Comme ça, l'État, il se débarrasse, y compris de ses propres salariés qui doivent gérer le pays, notamment. Donc c'est quand même assez paradoxal, ça. J'administre le pays, sauf que mes salariés et moi, je ne veux pas qu'ils puissent partir à la retraite dans des conditions normales avec tout le monde, indépendamment de ce qui est des services publics de transport, par exemple, parce qu'on parle beaucoup des cheminots, on pourra parler d'un tas de choses. Mais moi, je me pose quand même la question, un cheminot ou un pilote d'avion, quand il a 800 personnes derrière lui, où le pilote d'avion, quand il a 300 passagers dans son avion, le niveau de responsabilité qu'il a, est-ce qu'on va le faire travailler jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans ?
C'est, vous parlez de ça, ça me fait penser à ce... Ce chauffeur de locomotive ça a donné lieu à un arrêt de travail, droit de retrait des conducteurs, qui se trouvait tout seul dans un train avec je ne sais pas combien de centaines de personnes à l'arrière. Un accident. Lui obligé de sortir en courant pour aller bloquer un autre train pour éviter le suraccident parce qu'il était tout seul comme responsable de tous ses passagers. Imaginons que ce monsieur ait eu 65 ans, des problèmes d'arthrite, je ne sais, il aurait peut-être couru moins vite pour bloquer l'autre train.
Ah oui, non, mais c'est sûr, non, mais c'est vraiment quelque chose qui tourne le dos à tout le progrès. Le progrès scientifique, les progrès technologiques, c'est les humains qui les produisent, mais il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'on exige des choses supérieures. Et on ne conduit pas un TGV comme on conduit une machine à vapeur avant, d'autant qu'y compris le rythme de conduite est complètement différent. Oui. Donc voilà, on ne prend pas en compte ces situations-là. Et puis, si on prend les avions, si on prend les métros, si on prend les bus, c'est pareil. Je veux dire, ce niveau de responsabilité qu'il faut que les gens, ils ont la pression. Et après, plus globalement, si on parle des cheminots, on s'aperçoit qu'y compris les voies qui sont plus entretenues, les gares où il n'y a plus personne, pour ne pas aller bien loin, à Anse, il n'y a plus rien. Je veux dire, s'il n'y a qu'une machine automatique pour pouvoir prendre un billet ou des trucs comme ça.
Heureusement, à Villefranche, on a encore deux guichetiers.
Pour
le moment. Voilà. Donc on peut imaginer donc que ces régimes spéciaux ils sont liés à soit des pénibilités dans l'emploi, soit de fortes charges de responsabilité dans le travail qui est accompli.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que
donc c'est pas usurpé quoi.
Non, ça prend en compte ça, mais je veux dire ils ont la responsabilité de centaines d'autres personnes. Donc, incontestablement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on l'accepte ou pas, quand on arrive à 65, 70, 75 ans, on n'a plus les mêmes capacités. Hein. Je veux dire, les sportifs, ils arrêtent à 30 ans pour beaucoup. Oui. C'est bien qu'il y a un problème physique. Quoi. Et ben là, c'est pareil. Donc, je pense qu'ils ont des responsabilités qui pèsent sur eux en termes physiques, la fatigue, mais en même temps, en matière morale. Quoi, je veux dire, faut qu'on mesure ça. Donc après, bien évidemment, je pense qu'il y a à concevoir, même si on peut réfléchir à leur situation. Bon, par exemple, il y avait les aiguilleurs qu'il y avait avant à SNCF, il y en a moins, il y a une autre situation, mais qu'on mette du personnel supplémentaire, des contrôleurs qui accompagnent les trains. Il y a tout un tas de situations comme ça qu'il faut qu'on prenne en compte maintenant.
Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que donc, quand on voit que c'est que 3,4% de la population active, que si ces règles, ces spécificités ont été mises en œuvre, on vient de l'expliquer, c'est que derrière, il y a des vrais motifs, et des motifs qui sont des motifs de sécurité, de pénibilité. Si ce chiffon rouge, comme vous disiez tout à l'heure, est tout le temps agité, il y a une volonté de division, il y a une volonté de refuser de poser le vrai problème et de détourner l'attention.
Mais ça c'est certain. On détourne l'attention du fait qu'on nous propose, de ce qu'on en connaît, un vrai retour en arrière. C'est-à-dire d'abord la première des choses, c'est une individualisation. C'est quand même ça qui est fort, plutôt qu'une solidarité intergénérationnelle et une solidarité intercorporative aussi. On a cette situation. Donc moi, je trouve assez dommage que dans un pays qui aurait, dans la compétition économique internationale, qui aurait besoin au contraire d'unité, d'être tous forts pour porter le pays, pour porter la réponse aux besoins de la population, qu'on se retrouve dans une opération de division sur des considérations bassement financières. Quoi, parce que l'idée qu'il y a derrière, et qui est annoncée, alors ça où officiellement, c'est que de toute façon,
on
y mettra moins d'argent. C'est-à-dire qu'il y aura plus de retraités. Pour le moment, les retraites, c'est à peu près 13,8% du produit intérieur brut. Mais avec la réforme, on mettra 14%. Enfin,
ce sont des raisonnements
pourcentage constant.
Uniquement comptable.
Voilà. Mais derrière, il y a tout ce qu'on sait. Hein, je veux dire, c'est effectivement forcer les gens à aller à la capitalisation, au placement financier,
on en
placement
parlera,
sur les retraites.
Oui. Voilà. Alors, dans le projet qui est proposé, on entend dire aussi, alors après, qu'est-ce qu'il y a derrière, que, ma foi, ça sera... un euro cotisé égale un euro de droit, etc., etc. On entend dire que ça sera universel, que tout le monde touchera pareil, qu'il n'y aura plus d'inégalité, qu'il n'y aura plus de petites retraites. Qu'en est-il à votre avis ?
Ah ben, je crains le pire. Alors d'abord, sur la question d'un euro cotisé, donc c'est la démonstration de l'individualisation. Mmh. Hein, ça veut dire qu'il n'y aura plus de solidarité entre les générations.
Je cotise pour moi, point
voilà, barre. Voilà, point final. Donc quand on sait la réalité des différences, des gens dans leur situation, les aléas de la vie, les à-coups qu'il peut y avoir, pour certains, on est déjà sûr, si on prenait le cas des femmes par exemple, mais on est déjà sûr qu'effectivement il y aura une baisse généralisée du niveau des retraites. Alors, en termes de réponse aux besoins, quoi, je ne parle pas seulement en termes d'argent, parce que 1 000 euros, ça ne veut rien dire du tout.
Bien sûr.
Absolument rien.
Ça dépend où.
Même si quand on en parle aujourd'hui, à Villefranche, on a une moyenne des retraites largement inférieure à ce qu'on trouve ailleurs, parce qu'il y a des bas salaires, il y a plein de choses. Mais voilà, on est dans cette situation-là. Donc, le 1 euro, le système, c'est le système suédois, quoi. Quoi. Mm-hmm. Alors, quand on regarde le système suédois, c'est un système formidable. Mm-hmm. Bon, il n'a qu'un défaut. Hein. Mm-hmm. Il y a un seul défaut, c'est qu'il fait baisser les pensions. Donc, et là, même les Suédois eux-mêmes, et si le gouvernement suédois, au moment de la crise, avait pas pris des dispositions, il y avait une baisse de 10 à 20% de toutes les retraites chez eux. Mm-hmm. Donc c'était quand même... on n'avait pas ramassé les gens dans la rue comme ça, quoi. Mm-hmm. Donc ils ont été obligés de remettre au pot. Donc voilà, c'est pas un système solidaire. Hein, et c'est pas un système qui garantit, parce que vous ne savez pas d'une année sur l'autre combien, quand vous travaillez, combien ça va vous rapporter pour la retraite. Mmh. Il y a une valeur du point, et la valeur du point, après, comment dire, elle est discutée par le gouvernement.
Voilà.
Donc, s'il y a des problèmes, le gouvernement, il baisse la valeur du point.
Voilà. Actuellement, alors, on a des droits qui sont acquis.
Voilà.
Voilà, et on en bénéficie tout le long de sa retraite. Alors que là, avec la retraite par point, donc le point, il va être fixé par quelqu'un,
hein, ouais, qui mais sera il est fixé l'État. Par le gouvernement.
Et en fonction de la situation économique, des problèmes de je ne sais quel nouveau gouvernement un peu autoritaire qui pourrait arriver, clac, on décide qu'on gèle le point, comme pour les fonctionnaires.
Pareil.
Et du coup, pendant 10 ans, plus d'augmentation. Et même pas le coût de la vie.
Oui, oui. Alors, c'est déjà un peu ce que Macron vient de faire, hein, parce qu'il a quand même fait fort de...
le plan épargne
retraite. Ces derniers temps. Bon,
ouais.
Après, il y a une autre problématique. C'est que, par exemple, si dans les réponses aux besoins, il faut prendre en compte dans les cotisations l'ensemble des revenus. Or, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais vous donner un exemple très précis, pas loin, à côté de chez nous, là, chez Blédina. Blédina avait pratiqué pratique encore le groupe Danone avec des primes, 13e mois, 14e mois, prime d'intéressement, prime de participation. Sauf que quand les gens, ils arrivent à la retraite...
Ça compte pas pour les
ça
primes.
Compte pas. Ouais, ça compte pas. Et moi, je connais des gens arrivés à la retraite de chez Blédina qui se posaient la question de retravailler pour pouvoir faire face. Mmh. Donc voilà, là, il y a des sources de financement aussi possibles. Mais pour le moment, et ce qui fait que d'ailleurs, Macron, la dernière fois, il a proposé 1 000 euros de primes, mais 1 000 euros de primes qui ne comptent pas pour le calcul des retraites.
Voilà. Voilà. Toutes ces primes ne comptent pas.
Je connaissais le chemin de ma petite usine. Même que mon vélo y allait tout seul. 6 heures moins le quart, 6 heures et quart, un double café noir. C'était pas l'usine cernée par des grilles. On ne pointait pas, on disait bonjour. Je faisais des bottines avec ma machine. Une Cobra 19 modifiée 33, alors bien, super bien. Oh là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Ça te rend bougon. ça te fait tout vieux. La retraite, pas bon. La dis pas qu'un jour, on se fait une petite grève. Le patron et nous, juste pour essayer. Aux champignons, cria le patron. Un soir, on était tous noirs. Là, le retour des jeunes qui étaient militaires. Leur faut du travail. Quoi de plus normal? J'ai reçu ma lettre, il faut partir. Est-ce que ma machine va devenir sans moi, toute paumée? Voilà, c'est long, ma retraite. Voilà, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Ça te rend bougon. Ça te fait tout vieux, la retraite, pas bon. Alors j'ai raccroché musette et gamelle, mais je vais de temps en temps jeter un coup d'œil, car y a un scandale qui me turlupine. Il paraît qu'ils vont virer ma machine, comme moi, tout comme moi. Oh là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. C'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Ça te rend bougon. Ça te fait tout vieux, la retraite. La retraite, pas bon. Pas bon.
Voilà, la retraite, pas bon, la retraite, c'est con, c'est, c'est du second degré.
Ouais, 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 non, bougon, c'est sûr, en ce moment, on a besoin de bougonner et de retraiter, et c'est bon, parce que c'est une nouvelle vie, et c'est quelque chose de formidable, hein, pour tout le monde.
Alors, parlons-en, justement, de cette nouvelle vie. Il paraîtrait que, le, que les retraités coûtent cher à la nation, qu'ils font rien, qu'ils ne sont pas productifs, qu'ils ne consomment pas. Qu'en est-il ?
Ah oui, oui. Oh, j'ai une petite anecdote comme ça, là, parce que j'ai un commerçant que je connais bien, mais qui était très sympathique, mais il a exprimé quelque chose qui est très fort. L'autre fois, devant tout le monde, il dit « Oh, les vieux, vous nous coûtez cher. » Alors, comme ça, j'ai dit « Si on y prend que ça, je vais répondre. » Je lui ai dit « Je te propose, tu mets une petite affiche dans ton magasin, comme quoi le magasin est interdit aux plus de 60 ans.
»
au bout de quelques secondes, quand même, il est obligé d'avouer que, oui, peut-être que je serais obligé de licencier quelqu'un. Voilà. Non, mais c'est ça. On ne coûte pas, on est une richesse pour la société. Je veux dire, sur Villefranche, le montant des retraites distribuées, c'est 144 millions d'euros par an.
Ils vont où ?
Eh ouais.
Ils vont dans les commerces.
Dans les commerces, dans les associations, dans la culture, dans les sports, dans les loisirs. Ils aident les enfants, les petits-enfants même maintenant. Là, ça aussi, c'est assez paradoxal. On a vécu toute une époque où c'était les parents qui aidaient les grands-parents. Et maintenant, on est dans la situation où c'est les grands-parents, bien souvent, qui viennent au secours des enfants et des petits-enfants. Donc, c'est une machine qui tourne à l'envers, quand même.
Ouais.
Et voilà. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat des retraites, c'est quelque chose d'excellent pour l'économie nationale, mais et pour l'économie locale. Hein, parce que les retraités, parce que même si les retraités, comme on dit, ils mettent dans les comptes en banque, ils mettent un peu en réserve.
Bah, il faut bien ça. Oui.
Mais après, cet argent qu'ils ont mis de côté, elle va où ?
Elle
va des fois...
Dans l'économie ?
Oui. Puis elle va aider à quelqu'un à emprunter pour construire sa maison, pour acheter une voiture, et ainsi de suite. Quoi, je veux dire. Donc c'est, l'argent des retraites, c'est une vraie dynamique. Une dynamique qui est économique, bien naturellement, et sociale.
Oui, il suffit de faire le tour des associations de Villefranche pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de retraités qui en sont membres, et des associations énormément basées sur la solidarité, justement, et puis la transmission.
Ah oui, alors, par exemple, en France, le taux de pauvreté des retraités, des plus de 65 ans, il est de 8%. Il est de 16% en Suède, de 17% en Allemagne. C'est ce qu'on veut, plus de retraités pauvres.
Voilà, avec des systèmes de retraite tels que ceux qu'on nous propose.
Voilà, voilà. Ça ne suffit pas qu'on ait déjà des travailleurs pauvres, maintenant on veut des retraités pauvres en plus, qui viendront gonfler les demandes dans les associations caritatives, qui d'ailleurs nous disent en ce moment qu'elles voient arriver de plus en plus de retraités.
C'est le cas des restaurants du cœur à Villefranche.
Tout à fait. Mais tous, ils nous avouent ça. Mm-hmm. Ça fait mal au cœur quand on est en 2020, de voir une situation comme ça. Mm-hmm. Ah, moi qui ai déjà un certain âge, oui, j'ai vu des périodes où on allait porter du charbon à Villefranche, aux vieux travailleurs, qu'on les appelait les vieux travailleurs. Mm-hmm. On leur portait du charbon, on leur portait des fagots de bois. Mais je ne veux pas en revenir à ça, moi.
Bien sûr. Et maintenant, on leur porte des paquets de pâtes ou du riz. Oui. Voilà, ou c'est même eux qui viennent le chercher.
Ben oui, c'est ça.
Alors, dans ce système qu'on nous propose, on sent venir un système par capitalisation qui rappelle sombrement la période des subprimes américains où des gens qui avaient, pour leur retraite, capitalisé, ils se sont fait disparaître leur maison parce que les fonds ne pouvaient plus abonder et le système s'est écroulé. Avec aussi tous les dangers qu'amène ce système, qui est comme ces fonds de pension pour les retraités ont besoin d'énormément d'argent pour alimenter. Ils sont prêts à tout achat, à tout bouleversement dans l'économie. Je te rachète une entreprise, je la vends pas cher, je licencie, tout ça pour faire de l'argent qui va alimenter ces fonds de pension. Et ça, on est en train de le voir arriver. Et entre autres, aujourd'hui, on vient d'apprendre que Monsieur Delevoye, donc qui était chargé de ce rapport sur les retraites, il travaillait, puis il avait oublié de déclarer qu'il travaillait avec une assurance où il donnait des coûts.
C'est le groupe Malakoff.
Voilà, un gros groupe. Et c'est lui qui formait ses assureurs, etc. Assureur plus quelqu'un chargé des retraites, on sent quand même arriver quelque chose qui va dans le même sens.
Oui, mais le groupe Malakoff, déjà, c'est un institut de placement financier, donc qui fait un peu sur la mutuelle, santé, qui fait plein de choses, mais qui fait sur les retraites, effectivement, les retraites complémentaires, donc qui gère beaucoup de choses là-dessus. Donc incontestablement, le groupe Malakoff fait la démonstration régulièrement de profits considérables, qui sont... qui capitalise, quoi, ce que je veux dire, qui remet pas dans l'économie active pour l'emploi, pour le niveau de vie de la population.
Ça participe pas à l'économie générale.
Bah oui, voilà.
Alors, on va bientôt devoir se quitter, ça passe vite, une demi-heure avec vous. En forme de conclusion, vous appelez à quoi ? Et vous attendez quoi ?
Bah écoutez, nous, du point de vue général, comme les milliers de gens qui sont dans les rues en ce moment, on veut pas dire qu'il faut pas réformer notre système. Il a besoin d'être réformé. Il a besoin d'être alimenté financièrement pour assurer ses retraites indispensables pour les gens qui ont travaillé toute leur vie. Moi, c'est ça que je veux. C'est des gens qui travaillent toute leur vie et quand ils arrivent à la retraite, il faudrait qu'ils soient obligés de serrer deux crans de plus à la ceinture. C'est ça qui est pas normal. Et puis après, ce que j'expliquais un petit peu, c'est que cette richesse, elle serve au contraire à développer l'activité économique, que les retraités, ils financent plein de choses. Et moi, ce qui me fait peur, c'est justement tout l'inverse. Donc, on appelle les organisations syndicales, bien évidemment, mais les associations, il y a plein de gens qui sont dans l'action en ce moment, autour de cette idée-là. Nous, on veut vivre une nouvelle vie correctement. C'est une nouvelle vie, la retraite. Et on veut pouvoir la vivre correctement. On ne veut pas vivre dans la mendicité, d'être obligé de compter chaque jour. C'est déjà un petit peu le cas. Et je veux dire notamment à Villefranche, parce que chacun sait que Villefranche, le niveau des retraites est extrêmement bas. Je pourrais donner des chiffres, mais je ne veux pas vous compliquer avec ça. Donc, la retraite, c'est une richesse pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, y porter atteinte, c'est effectivement aller dans la régression sociale, ce qui est inadmissible.
Voilà, on va terminer sur cette conclusion. Michel Catelin, merci.
Merci.
Et puis, j'imagine qu'on aura l'occasion de vous revoir, soit dans les rues, soit...
Oh, sûrement.
Voilà. Voilà, c'était...
Encore que si on pouvait s'en passer.
Hein. Oui, on ne fait pas ça pour le plaisir, uniquement. Voilà, c'était... Et si on en parlait, au mois prochain. Salut.